Bonsoir à tous, chers auditeurs de Radio Courtoisie, nouveau numéro des Chroniques de la Vieille Europe. Alors, en compagnie de ma propre personne, dans notre studio, Pascal Essérick, rédacteur en chef de la revue Élément. Bonsoir, Pascal.
Bonsoir.
Vous êtes étonné par...
Vous parlez de vous à la troisième personne.
Voilà, c'était un peu pour changer un peu. Dans le studio aussi, Philippe Christel, notre consultant international. Bonsoir, Philippe.
Bonsoir. Bonsoir à tous.
Alors, on va faire une émission. Il était forcé de passer par là. C'est l'Italie. Est-ce que l'Italie est une solution pour l'Europe? En tout cas, elle a fait trembler un peu partout, de Paris, de Berlin, pas Moscou, non, ça pas beaucoup, mais même à New York où la bourse a dégringolé après les élections. On va parler de l'Italie, de son actualité électorale et de ce phénomène qu'est Beppe Grillo, mais nous irons forcément un peu plus loin sur l'histoire du populisme, et nous allons avoir au téléphone le politologue Marco Tarchi, qui va nous expliquer tout ça, parce que j'ai l'impression que la presse française a été pris un peu de court et n'ont pas eu grand chose à dire au départ, et ça a été un peu la panique. Il y a eu, bien sûr, les correspondants, mais enfin, j'ai lu beaucoup n'importe quoi sur ce phénomène-là. Alors, est-ce que nous avons Marco Tarchi? Bonsoir Marco Tarchi, vous m'entendez?
Bonsoir.
Merci à vous d'avoir accepté notre invitation sur Radio Courtoisie. Alors, pour vous présenter aux auditeurs, vous êtes un politologue italien, professeur à l'Université de Florence, directeur de la revue philosophique Diorama Letteriario. Excusez-moi pour mon italien qui est très mauvais. Et vous avez publié plus d'une dizaine d'ouvrages et êtes considéré comme l'un des politologues, et en tout cas en France, souvent vous êtes consulté pour nous expliquer cette vie de politique italienne. Et vous écrivez aussi régulièrement dans la revue Éléments et Crisis en ce qui concerne vos activités en France. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, cette élection a été un peu un tremblement de terre vu de Paris ou de Berlin, et je disais que même du reste du monde, parce que la bourse de New York a signé sa plus mauvaise séance de l'année après les résultats. L'Italie le vit-elle comme ça? Est-ce que cette élection a été un tremblement de terre dans la péninsule?
Oui et non, c'est-à-dire que on s'attendait à un exploit de cet outsider qu'est Beppe Grillo, et depuis longtemps on savait que beaucoup d'électeurs en avaient absolument marre de la classe politique au pouvoir. Les partis italiens les plus importants avaient déjà donné des signes très significatifs de la difficulté qu'ils avaient à dialoguer avec ce qu'on appelle la société civile. Et donc, on s'attendait sans doute à un changement d'attitude de la part de l'électorat. Mais on n'arrivait pas à imaginer que ça pouvait toucher tellement de monde, et que donc le mouvement Cinque Stelle de Beppe Grillo serait devenu le premier parti du pays. Mais disons que les gens qui sont les plus préoccupés aujourd'hui me paraissent les journalistes et bien sûr les analystes financiers. Quant au peuple, disons, quant aux gens de la rue, je pense qu'il y a des opinions très partagées. Il y a des gens qui ont été choqués parce qu'ils croyaient que rien n'allait vraiment changer dans ce pays. Mais il y en a beaucoup qui espèrent voir... se créer une situation tout à fait différente de celle qu'ils ont eu à subir pendant des décennies dans un pays qui a connu la corruption politique à un très grand niveau, comme tout le monde le sait, qui a vu une déchéance systématique de l'esprit civique, qui a vu, disons, les institutions de plus en plus s'éloigner des préoccupations ordinaires des citoyens. Et donc, il y a beaucoup de gens ici qui se demandent si vraiment ce succès de Grillo ne va ouvrir une nouvelle ère de la politique italienne, qui ne serait pas forcément pire que celle qui l'a précédée.
Parce que dans ce phénomène, on a pu voir que il s'est quasiment pas servi des médias italiens. Il est passé énormément par Internet. Est-ce que vous avez l'impression que cette contestation est un peu dans la tradition italienne, où il y a vraiment une véritable révolution sur la façon de faire de la politique?
Disons que l'Italie a été souvent décrite, surtout, je dirais, par des auteurs français. Je pense à Yves Meny, Yves Surel, à Guillermé, à Pierre-André Taguieff, tous spécialistes du populisme, comme le laboratoire de la protestation de style populiste. On dit même, et je suis d'accord avec ça, que c'est en Italie qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu le premier phénomène, d'ailleurs une sorte d'épiphénomène, de contestation de l'establishment au nom de la nécessité de donner au peuple, redonner sa voix, sa possibilité, disons, d'avoir de l'influence sur le processus de décision. On a eu ce qu'on appelait le phénomène de l'uomo qualunque. Il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais c'est toujours la même histoire, donc ce sont des phénomènes éphémères et qui ne vont durer que l'espace d'un matin. Moi, je ne suis pas tellement d'accord avec cette idée, cette vision de la situation. Je pense qu'effectivement, cette fois-ci, c'est vraiment une sorte de réaction très dure vis-à-vis des insuffisances de la classe politique qui s'est dessinée à travers les urnes, et je pense qu'on ne pourra pas passer à côté de cette contestation. Donc, je pense que vraiment nous sommes devant un phénomène absolument nouveau.
Vous parliez tout à l'heure de c'était en 1945, c'est ça, 1945-46, on pourrait le traduire par le front de l'homme de la rue, qui avait failli en 46 prendre une grande partie des villes italiennes, et ce mouvement a disparu. Est-ce que vous avez l'impression que Beppe Grillo est peut-être mieux organisé et mieux ancré dans la société italienne pour durer?
Ce n'est pas un problème d'organisation, selon moi. Ce qui s'était passé à l'époque, disons après la Deuxième Guerre mondiale, c'était qu'il y avait vraiment une grande réaction populaire vis-à-vis de toutes les souffrances que le peuple avait dû subir pendant la guerre et devant, disons, la réappropriation de la politique par des partis qui déjà montraient une attitude, disons, à la particratie, donc qui n'hésitait pas devant la corruption et d'autres comportements très négatifs. Mais à l'époque, il y avait un parti dominant qui était la Démocratie chrétienne, qui avait le soutien de l'Église catholique, qui en 1945 était une véritable puissance. Aujourd'hui, il n'y a rien de pareil. Beppe Grillo n'a pas misé sur une organisation, il n'y en a pas un parti de Grillo. C'est un mouvement qui s'appuie beaucoup sur la puissance du web, et donc c'est une sorte de mouvement d'opinion à travers lequel les citoyens expriment leur méfiance vis-à-vis de la classe politique professionnelle et essayent de donner des réponses pratiques à la crise dans laquelle l'Italie est plongée depuis plusieurs années.
Est-ce qu'on pourrait le comparer, ou alors c'est une crise encore plus forte, que par rapport à la crise de 90, hein, quand la démocratie chrétienne a explosé avec la corruption, on a vu des partis émerger, on a vu arriver Berlusconi, la Ligue du Nord, etc. Est-ce que c'est exactement le même phénomène, ou vous avez l'impression que c'est peut-être encore plus profond qu'en 90?
C'est quelque chose en même temps plus superficiel et plus profond, je dirais. J'essaye de m'expliquer. C'est un peu plus superficiel parce que les mouvements ou partis qui ont fait surface après Tangentopoli, donc début des années 90, étaient tous des partis qui avaient une, disons, provenance de traditions idéologiques ou politiques. Donc c'était les héritiers des partis qui existaient auparavant. Et même la Ligue du Nord avait, disons, était ancrée dans une vision du monde dans laquelle il y avait côté à côté le fédéralisme, l'idéologie des racines culturelles et populaires, etc. Maintenant, nous nous trouvons devant un scénario tout à fait différent. Je pense que le phénomène Grillo peut être considéré comme une sorte de prototype du populisme pur, c'est-à-dire d'un phénomène qui se rattache à la mentalité populiste, mais qui se pose directement au-delà et même contre le clivage droite-gauche. Grillo, à chaque sortie, à chaque meeting, insiste beaucoup sur le fait que les notions de droite et de gauche ne peuvent pas aujourd'hui cerner les grands problèmes que les gens communs, les citoyens, doivent affronter jour après jour. Donc, je crois que on ne peut pas interpréter le phénomène Grillo en faisant référence à ce qui s'est passé avant lui. Par exemple, pour parler de quelque chose qui concerne la France, les médias italiens ont beaucoup évoqué le phénomène Pujade, ouais, en disant que c'est peut-être une réédition du phénomène Pujade. Bien sûr, il y a quelques rassemblances, mais on ne voit pas à l'horizon des Charles de Gaulle ici en Italie, donc le contexte absolument différent. Il n'y a rien de pareil à la crise d'Algérie, etc. Donc ce ne sera pas, disons, pas en faisant référence à une sorte de menace extérieure qu'on pourra essayer de bloquer le phénomène Grillo.
Quand vous parlez de l'irruption d'un parti qui serait ni droite ni gauche, vous êtes politologue, vous connaissez les différents courants de pensée idéologique et ils sont nombreux en Italie. Y a-t-il un corpus politique derrière ce parti? Est-ce qu'il y a des penseurs, des intellectuels, des gens qui ont mis en place ce parti-là?
Non, il y a une figure de Jean de Prue. On parle beaucoup de ce monsieur qui s'appelle Gianroberto Casaleggio, et on le décrit en termes assez négatifs, parce que...
C'était un ancien de la Ligue du Nord, c'est ça?
Pardon?
Pardon, c'est un ancien de la Ligue du Nord, non?
Je ne crois pas. C'est non. Quelqu'un, disons, que, dont on ne connaît pas trop le passé. C'est quelqu'un qui s'est occupé de maisons d'édition, mais qui n'a eu jusqu'à maintenant aucun rôle public. On le décrit comme le gourou de Beppe Grillo. Il faut dire qu'en tant que mouvement populiste pur, si on peut dire, ce mouvement déteste les intellectuels. C'est-à-dire, il a une attitude plutôt anti-intellectuelle, considère les intellectuels comme des gens qui sont trop proches du pouvoir, qui veulent influencer le pouvoir, l'establishment, mais qui en font partie. Et donc, il se méfie profondément de cette catégorie. Il affiche l'attitude ultra-citoyenne. Nous sommes des gens comme tous les autres. Personne d'entre nous ne veut gagner des postes de pouvoir, etc. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a réellement un courant de pensée derrière Grillo. Mais lui, il est très efficace parce que je pense que lui, il possède une vision générale de la société et même s'il fait souvent référence à des positions plutôt utopiques, parfois démagogiques, mais il montre une certaine solidité de pensée. Mais ce sera difficile de dire à quoi il se rattache. Il faut dire qu'il parle beaucoup de décroissance et qu'il a cité à plusieurs reprises Serge Latouche. Donc, si on veut parler d'une inspiration en termes très, très, très génériques, idéologiques, ou plutôt de vision du monde, c'est là qu'il faut trouver ses racines.
Pascal Essérique a une question.
Oui, je voudrais revenir sur la figure de Pepe Grillo. Quel est son parcours et quels sont, même si on a bien entendu qu'il y avait un rejet des intellectuels, quelles sont ses influences?
Écoutez, à part de ce monsieur Casaleggio dont on parlait, disons, il n'a pas de conseiller, du moins c'est ce qu'on sait de lui, qu'il n'a pas, disons, de conseiller intellectuel. Ces derniers jours, on a vu se montrer sur l'écran de télévision au moins deux personnes qui sont considérées comme faisant partie de son entourage et qui ont des attitudes d'idéologue. C'est un professeur associé d'économie dans une université, je crois, de la région des Marques, et un autre qui est, disons, plutôt un spécialiste de littérature comparée. Mais ce sont des figures dont on ne sait vraiment pas grand-chose aujourd'hui, parce que ce mouvement a eu une vie très intense, mais entièrement, disons, relié au web, à Internet. Donc, les gens qui ne fréquentaient pas le blog, d'ailleurs très célèbre, de Grillo, connaissent très très peu de ces gens-là. Je pense que c'est quelque chose qui va se montrer au jour le jour. Donc on pourra dire d'ici quelques mois quelles sont les attitudes plutôt reliées à une position idéologique, une vision du monde, que ce mouvement va prendre. Pour l'instant, c'est très difficile de les déceler.
Alors, vous êtes sur Radio Courtoisie et nous recevons Marco Tarchi pour l'Italie, une solution pour l'Europe. Et voici maintenant une question de Pascal Essérick.
Oui, je voulais relancer sur ce que vous disiez à l'instant. C'est finalement ce qu'on appelle un incendie numérique. Toute cette stratégie était visible sur Internet et on a souvent ces phénomènes d'incendie numérique qui enflamment la vie politique.
Oui, il faut dire que Beppe Grillo est en train d'écrire peut-être un nouveau chapitre de l'histoire assez courte mais importante de la communication politique. Il a vraiment là fait une véritable révolution. Quand on pense aux attitudes que la plupart des hommes politiques italiens ont eues devant en général le numérique, devant Internet, tout ça, jusqu'à il y a quelques années, on se rend compte de l'énorme différence qu'il y a avec Grillo. La plupart des politiciens italiens ont utilisé le web comme une sorte de vitrine, une sorte de réplique de l'écran de télévision, et ils n'ont pas compris les potentialités que cet instrument mettait à leur disposition. Mais Grillo, lui, dès le début, a compris que cela pouvait, diminuer énormément la distance qu'il y avait entre un mouvement politique et la plupart des citoyens, des gens qui fréquentaient le web, et donc il a là aussi essayé de propager son message, et il a donné à beaucoup de gens l'impression qu'ils pouvaient participer aux décisions, donc que finalement l'establishment et les élites pouvaient être reconduites à un rapport plus direct avec le peuple, avec les citoyens, et que donc le rapport, disons, de hiérarchie traditionnelle pouvait être renversé. C'est probablement une utopie, mais c'est une utopie qui plaît à beaucoup de monde, qui donc a jeté les bases de l'énorme succès que Grillo a pu recueillir lors des dernières élections.
Est-ce qu'on pourrait parler quasiment, enfin il y en a même en France, on commence à parler de ça, de démocratie directe. On a vu un peu l'exemple suisse cette semaine. Est-ce que l'Italie pourrait se préparer à une sorte de révolution de démocratie directe?
Je pense que c'est exactement ce que Grillo voudrait. Je ne sais pas si les médias italiens et les Français, pardon, en ont parlé, mais il y a deux jours, Grillo a attaqué assez durement un article de la Constitution italienne, qui est d'ailleurs plus ou moins le même article qu'on retrouve dans toutes les constitutions démocratiques et républicaines aujourd'hui en Europe, qui empêche le mandat obligatoire, donc qui laisse les représentants élus complètement libres dans leur activité. Il a dit que c'est une sorte de cancer de la démocratie parce que cela ne permet pas au peuple de vigiler sur l'action de ses représentants. Et c'est une raison de plus pour lui de réclamer la démocratie directe. Vous savez qu'en général, tous les mouvements populistes aiment beaucoup ce que certains États américains, les États-Unis, ont déjà depuis longtemps, c'est-à-dire l'Institut du Recall, la possibilité donc de soumettre les élus à des censures, même de voter afin de les substituer, et donc de contrôler directement tout ce qu'ils font.
C'est le mandat impératif.
C'est exactement ce que Grillo réclame.
C'est le mandat impératif, en fait.
C'est exactement le mandat impératif, ce qu'il voudrait. Donc il voudrait, disons, rétablir un rapport hiérarchique renversé. Le peuple doit imposer à ses élus sa volonté à chaque moment. Donc il propose des référendums propositifs et il a fait référence à plusieurs reprises à la situation suisse.
Pascal Essérick.
Je sais que Étienne Chouard est un fervent défenseur du mandat impératif. Je crois que vous l'aviez reçu dans votre émission.
Oui, c'est vrai.
Je voudrais aborder. Le 15 mars prochain va s'ouvrir la nouvelle législature. Quels sont, d'après vous, Marc Autarki, les scénarios de sortie de crise, de sortie de crise, en tout cas post-électorale?
On peut énumérer les possibilités qu'il y a, mais je pense qu'au fond, il n'y en a qu'une qui pourrait être poursuivie. Donc, bien sûr, on aura peut-être une tentative de la part du secrétaire général du Parti démocrate, qui a quand même de très très peu, avec sa coalition, gagné les élections, donc qui a une majorité absolue à cause de la loi électorale assez paradoxale que nous avons ici en Italie. Il y aura peut-être une tentative de créer ce qu'ils appellent un gouvernement à terme, qui va proposer quelques points forts. On parle de 8 points de programme à mettre en place dans l'espace peut-être de 10 mois, 11 mois, 12 mois, donc moins d'un an, pour aller ensuite aux nouvelles élections. Mais c'est très difficile que cette tentative soit couronnée de succès, parce que on sait très bien que le président de la République n'aimerait pas envoyer M. Bersani, donc le secrétaire du Parti démocrate, se faire battre au Sénat et donc disparaître immédiatement de la scène politique qui compte. Il y a une deuxième possibilité qui est celle de ce qu'on appelle le gouvernissimo, ou la grosse coalition, c'est-à-dire un gouvernement qui serait le fruit d'un compromis entre les deux partis qui, avant les dernières élections, dominaient la scène, donc le PDL de M. Berlusconi et le Parti démocratique. Mais là encore, c'est bien difficile, parce que pour la plupart des dirigeants du parti de centre-gauche, ce serait une défaite incroyable, oui. Accepter de pactiser avec le diable. Donc ils ont attaqué tout le temps Berlusconi et ce sera difficile pour eux de digérer. Et demain, on aura une réunion de la direction nationale du Parti démocratique. Et on ne sait pas ce qui se passera, mais il y aura sans doute des dirigeants qui oseront proposer cette solution, mais je pense qu'ils seront absolument minoritaires. Et puis, il y a la troisième solution que je considère comme la plus probable, c'est-à-dire qu'on laisse le président de la République libre de choisir un candidat pour la présidence du Conseil, qui serait très probablement un technicien. Pas du tout M. Monti, d'ailleurs, parce que l'échec de son gouvernement était patent, mais quelqu'un qui puisse se présenter comme un homme au-dessus de la mêlée et qui, lui aussi, se propose de créer un gouvernement provisoire qui refasse la loi électorale, donc qui change la loi électorale, qui s'occupe des urgences de l'économie, qui diminue le nombre énorme des élus, des parlementaires italiens, qui fassent quelques petites réformes pour donner aux Italiens l'idée qu'on veut vraiment changer les choses. Après quoi, il y aura sans doute des élections anticipées. Je ne pense pas qu'on ira au-delà de l'automne de cette année.
Pascal Essérique.
Oui, alors ce serait cette solution, Marco Tacchi, ce serait une fois de plus passer au-dessus de au-dessus des Italiens, du vote des Italiens. C'est un gouvernement du président finalement.
Exactement. Ça c'est disons un peu la conséquence directe du rôle qu'on a accordé à Monsieur Napolitano. Lorsque le gouvernement Berlusconi est tombé. Mais... C'est-à-dire, on a lui laissé la possibilité de choisir un homme de sa complète confiance, et les partis ont été incapables de lui opposer des solutions alternatives. Donc, les médias ont immédiatement dit que c'était la sagesse du président de la République qui avait empêché le pays de sombrer dans le désastre. Et aujourd'hui même, je dis même aujourd'hui, le 5 mars, on a la radio, la télévision, dans le journal, on a lu plusieurs articles, on a écouté des commentateurs qui ont repris le même refrain, c'est-à-dire Napolitano, c'est le seul homme politique sage qui peut sauver l'Italie dans ce moment, donc il faut le laisser libre. Des commentateurs très très proches du centre-gauche ont dit directement au Parti démocratique que demain il devra éviter de présenter des candidatures au poste de président du Conseil, et que M. Napolitano devra résoudre la grave situation dans laquelle est tombée la politique italienne.
Alors, Philippe Ridet, qui est le correspondant du Monde à Rome, évoque un nom, celui d'Ignazio Visco, le président de la Banque d'Italie.
C'est possible, il y en a d'autres. On parle de Visco. On parle aussi de l'ancien ministre et d'ailleurs ancien banquier Corrado Passera, qui lui aussi disons, était plutôt sous des positions centristes, mais avait refusé de suivre Mario Monti dans son aventure politique. On parle aussi d'un juriste qui était un réformiste de l'ancien parti de la gauche du PDS, Stefano Rodotà. Je ne suis pas sûr que ce soit le nom préféré par Napolitano. Je pense qu'il va essayer de trouver quelqu'un qui n'ait pas d'étiquette politique. Oui, bien sûr, Visco est dans une position préférentielle parce que il a été accepté un peu par tout le monde, donc par les gens de droite, par les gens de gauche.
Oui, et surtout par les marchés, semble-t-il.
Il y a d'autres options, mais pour l'instant, ce sont les noms qui passent le plus souvent.
Oui, Philippe Ridet, d'ailleurs, conclut « Cette solution pourrait rassurer les marchés ».
Oui, vous savez, bien sûr, la situation italienne n'est pas trop différente de celle des autres pays européens. Désormais, depuis longtemps, les médias surtout nous disent chaque jour qu'en réalité, la politique a été complètement absorbée par l'économie et par la finance, donc que les marges d'autonomie dont la politique dispose sont vraiment moindres. Et ils disent qu'il faut que les choses continuent à aller comme ça, parce qu'on a, disons, désormais une idée tout à fait féodale du rapport entre politique et économie, et c'est l'économie qui domine.
Mais politiquement, l'Italie peut s'offrir un deuxième banquier comme Premier ministre ?
C'est ce que je me demande, moi aussi. Je ne sais pas, mais je crois que le public, donc que les Italiens, réagiraient d'une manière assez négative à cette nomination, parce que le vote pour Grillo et même des votes qui sont allés aux autres partis sont la démonstration que la période Monti a été absolument rejetée par 90% des citoyens italiens. Donc, ce serait très risqué de proposer un technicien qui vient du monde des affaires, des banques, etc.
Autre phénomène pendant cette élection, Marco Tarchi, c'est pendant cette campagne, ça a été la défiance vis-à-vis de l'Europe. Et on a même eu un Berlusconi qui a eu des attaques très virulentes envers l'Allemagne. L'Italie était considérée un peu comme le pays le plus européen par rapport aux Français. Est-ce que il y a une véritable défiance de l'Europe aujourd'hui dans le peuple italien?
Je ne pense pas que ce soit un refus ou une méfiance vis-à-vis de l'Europe, je veux dire de l'idée d'une Europe unie ou disons d'une Europe différente de celle qu'elle est aujourd'hui. C'est plutôt un rejet de l'Union européenne en tant que telle aujourd'hui et des logiques d'influence à l'intérieur de l'Europe. Il y a eu sans doute une montée très forte de méfiance vis-à-vis de l'Allemagne. Et là, il y a eu des responsabilités dans cette attitude de la classe intellectuelle et des politiciens. Mais je pense que, sur le fond, les Italiens restent très attachés à l'idée que l'Europe doit trouver des solutions pour reprendre sa place dans le monde. C'est plutôt une forte méfiance vis-à-vis de ce qu'on appelle les eurocrates de Bruxelles. Là aussi, Grillo a beaucoup puisé dans ce sentiment de réaction et il a été toujours très attentif à distinguer entre l'Europe idéale, dont il parle en termes très positifs, et l'Europe réelle de la Commission, des banques, etc., contre laquelle il a laissé partir ses foudres.
Et les attaques de Berlusconi sur l'Allemagne, c'est quelque chose qui a marché dans la campagne. Les Italiens l'ont suivi là-dessus.
Peut-être oui. On n'a pas encore eu de recherche sur les motivations de l'électorat de Berlusconi. Je pense qu'il a beaucoup misé sur le thème de l'opposition au poids fiscal. Donc il a parlé tout le temps des impôts qui avaient été introduits par Monti. Il a parlé de son engagement à restituer de l'argent aux contribuables s'il avait été élu. Le thème de l'Allemagne, le thème de l'Europe a été plutôt secondaire dans son discours public. Lui aussi, il a essayé de parler aux électeurs en essayant de miser sur les thèmes, disons, de l'économie réelle, de leurs préoccupations quotidiennes, de problèmes de leurs revenus, et donc il a laissé les autres thèmes un peu à côté, peu de côté.
On ne se rend pas forcément compte en France de la crise en Italie. Je lisais il y a pas si longtemps un chiffre assez affolant, vous allez peut-être le confirmer, c'est la chute des inscriptions en université des jeunes. De 2003 à 2013, ils ont diminué de 17%. Est-ce que les jeunes ont été sacrifiés depuis 10 ans en Italie, comme on le voit un peu en Espagne ou au Portugal?
Oui, je suis d'accord avec vous et je vous dis que je confirme les chiffres que vous avez donnés. Rien que pour ma faculté à Florence, on a été assez choqués en apprenant qu'il y avait eu une baisse de 23% de gens qui s'étaient inscrits à la première année en sciences politiques. Et c'est une situation qui touche un peu toutes les facultés. Et c'est évidemment la conséquence du fait que dans plusieurs familles, les gens préfèrent essayer d'entrer dans le marché du travail immédiatement après leur diplôme, donc à 18 ans plus ou moins, plutôt que d'essayer de passer 3, 4, 5 ans dans une situation assez difficile, parce qu'en plus, les impôts universitaires ne sont pas très très forts, mais quand même, pour la situation difficile de plusieurs foyers, ça constitue un poids difficile à supporter. Donc, les jeunes ont été sans doute pénalisés, pas seulement de ce point de vue-là, mais à cause de la réforme du système de retraite, qui d'ailleurs était inévitable, mais qui a permis ou même a obligé des gens de 65 ans de rester encore 2-3 ans sur le poste de travail, ou des gens de 60 ans d'arriver au-delà de 65. Et donc cela a empêché plusieurs jeunes de trouver leur place et a aggravé la situation générale des gens qui ont aujourd'hui entre, je dirais, 18 ans et 25, voire 30 ans.
Alors, vous êtes bien sur Radio Courtoisie. Nous recevons Marco Tarchi sur l'Italie. Est-ce qu'une solution pour l'Europe après cette actualité électorale ? Marco Tarchi, est-ce qu'on pourrait faire une comparaison ? Alors, en France, on a beaucoup de politologues qui adorent faire ça. Une comparaison de tous ces mouvements populistes. Vous les avez étudiés, vous n'avez pas étudié que les mouvements italiens. Est-ce qu'on peut comparer ce nouveau parti de Beppe Grillo avec d'autres partis autour de l'Europe, hein? Je pense bien sûr au Front National en France, ou à la Ligue du Nord en Italie, ou au FPO, ou à l'UDC. Ou c'est un autre phénomène?
C'est une comparaison compliquée. Il faut se situer à deux niveaux différents. Si on parle en général d'un fond populiste, de mentalité populiste, disons dans le scénario assez complexe qui caractérise ce courant, on pourrait dire qu'il y a effectivement des comparaisons qu'on peut faire, et on peut retrouver plusieurs éléments qui rattachent les uns aux autres tous ces mouvements. Mais au-delà de ce premier niveau, il y a un deuxième niveau, disons, dans lequel on peut distinguer à l'intérieur de la grande famille des mouvements populistes différents courants. Là déjà, il y a désormais 20 ans, il y a eu des analystes. Je pense par exemple à un politologue allemand, Hans-Georg Betz, qui avait publié en anglais en texte en 1994, et il parlait déjà d'une différence entre des partis nationaux populistes et des partis libéraux populistes. Alors là, je crois qu'il faut ajouter peut-être ou modifier cette division et voir si aujourd'hui on se trouve devant une catégorie, disons, qui dépasse un peu les clivages habituels. Et là, on pourrait situer Grillo. Sans doute, il y a des motivations assez semblables chez les électeurs de ces partis. Et c'est Grillo lui-même qui l'a admis lorsqu'il a dit « Écoutez, si vous ne vous rendez pas compte des changements radicaux qu'il faut faire dans la vie politique italienne, les gens qui votent aujourd'hui pour notre mouvement vont voter pour des partis comme le Front National français ou même comme l'Aube Dorée grecque. » Donc c'est évident que lui-même comprend que le public, disons, des populistes, des mouvements populistes, est motivé plus ou moins par les mêmes raisons. Donc, on devrait étudier à fond les affinités et les divergences qu'il y a au sein des électorats des différents pays, et bien sûr les réponses que les mouvements populistes donnent à ces électorats. Mais je crois qu'il y a quand même pas mal de motivations et même de thèmes de campagne qui se rassemblent beaucoup.
Philippe Christel.
Oui, je vous écoute avec attention, et la question de Patrick Péel sur les comparaisons
avec d'autres partis populistes était une question qui me brûlait les lèvres, mais moi je ne faisais pas du tout les mêmes comparaisons que lui. Et je voudrais vous soumettre mon observation, c'est qu'il me semble, puisqu'en politique, malgré tout, ce qui compte, c'est l'efficacité ultime, c'est l'efficacité finale, et qu'à l'évidence, le mouvement de Beppe Grillo empêche M. Bersani de faire sa coalition, mais on dit que Grillo a probablement pris beaucoup de voix à la gauche. On dit que dans la ville de Florence, qui est la vôtre, je crois, ou à Bologne, près de la moitié de ses voix ont été prises à la gauche, ce qui veut dire qu'il y a une bonne partie, et parfois plus de l'autre moitié, qui a probablement été prise à la droite. Et quand on voit quand même la chute assez impressionnante de score du parti du PDL ou de la Lega, on peut se demander s'il n'y a pas une partie de votre protestataire qui a été captée par Grillo au détriment des forces de droite. J'ajoute que la droite a été plus proche de remporter la Chambre et le Sénat que le PDL de remporter la Chambre et le Sénat. Je ferme la parenthèse. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je constate quand même qu'à plusieurs reprises, lorsque la situation est critique dans un pays et qu'on assiste à une émergence ou une structuration d'une force de droite, eh bien, et avant qu'elle ne puisse s'exercer réellement, arrive une espèce d'homme providentiel qui vient capter sur son nom un certain nombre de choses. On a cité, c'est il y a très longtemps, on a cité Pierre Poujade, mais Pierre Poujade, c'est exactement ça. C'est surfer sur un mouvement plutôt de droite qui empêche la vraie droite d'arriver au pouvoir. On pourrait citer en Flandre la liste d'Edeker qui est venu juste le moment d'une mandature privée, le Vlaams Blok devenu Vlaams Belang, d'une certaine influence, et de cette date-là commence le déclin du Vlaams Belang. On pourrait citer Pim Fortuyn. Il y a trois jours, nous avons eu deux élections régionales dans des Länder autrichiens, et on voit bien qu'il y a un nouveau parti qui est l'émergence de Frank Stronach, donc qui est le patron de cet équipementier automobile Magna, qui a 80 ans, c'est un entrepreneur, et ça y est, il vient surfer lui aussi. Donc ma question, est-ce que, petit 1, Beppe Grillo n'est-il pas avant tout une réussite, mais une réussite flamboyante et probablement fugace qui aura permis une fois de plus à la droite de passer à côté du pouvoir? Et deuxièmement, si on extrapole, est-ce que vous pouvez nous donner votre analyse sur les résultats de la droite, pas la droite centriste, mais la droite? Donc comment, de votre point de vue, la Lega a résisté au cortège de scandales liés à la fin de l'ère aussi? Et puis, quelques commentaires, même si c'est marginal, mais ça amuse toujours nos auditeurs. On a vu se présenter dans l'ordre, ou plutôt dans le désordre, des gens comme Forza Nuova, comme Casa Pound Italia, comme Fiamma Tricolore, et ces gens-là ont fait des scores tout à fait confidentiels. Est-ce que vous pouvez nous donner deux mots là-dessus? Donc il y a beaucoup de choses dans ma question, mais comme je n'avais pas parlé depuis le début, je voulais en mettre un paquet.
Il y en a énormément. La question est très intéressante. J'essaye de partir, disons, du fond de la question, c'est-à-dire de la dernière partie. Le destin, si on peut dire, de ce qu'on appelle l'extrême droite italienne. Il faut dire que la situation italienne de ce courant a été toujours assez particulière. Vous savez qu'on a eu, pendant des décennies, en Italie, représenté au Parlement, un mouvement assez ouvertement néofasciste qui était le Movimento Sociale Italiano. Et c'est à partir de ce parti-là que s'est créée l'Alliance Nationale avec Gianfranco Fini, qui a pris fin avec la fusion dans le parti de Berlusconi, donc le Popolo della Libertà, il y a 4 ans. Donc, ce qu'on peut se demander, c'est si l'histoire de ce courant qu'on pourrait correctement situer dans le néofascisme peut se considérer terminée. Je pense que la réponse est oui, parce que si on considère l'ensemble des mouvements qui sont plus ou moins les héritiers de ce courant, ils ont fait plus ou moins 3%. Même le genre de l'ancienne Alliance Nationale, qui avait participé à l'aventure du Popolo della Libertà et qui ont décidé de créer leur propre mouvement afin d'éviter que d'autres électeurs abandonnent le centre droit pour s'abstenir. Même ce mouvement qui s'appelle aujourd'hui Fratelli d'Italia n'a fait que 1,9% des voix. Il est rentré à cause de bizarreries de la loi électorale. Il est rentré dans le Parlement, mais avec 9 députés. Donc son influence est vraiment presque nulle. La raison pour laquelle... Pardon ?
Oui, non, c'est la moitié de ce qu'a eu la Lega, qui n'a eu que 18 députés.
Exactement, oui. La Ligue, bon, c'est encore une autre histoire. Je vais terminer sur l'extrême droite. Je pense que des mouvements tels que la Fiamma Tricolore ou Forza Nuova, même Casa Pound, n'ont aucun avenir politique. C'est-à-dire, ce sont des mouvements qui essayent de faire face au désastre absolu de ce courant néofasciste, mais qui vraiment n'ont qu'une présence purement nostalgique, épisodique, sans aucun avenir. Quant à la Ligue du Nord, elle a réussi quand même à résister à la catastrophe qui avait été créée par le scandale de Bossi, de sa famille, de ses collaborateurs, grâce au fait que le PDL a accepté de miser sur la candidature du secrétaire général de la Ligue, donc Roberto Maroni, en tant que président de la région Lombardie, qui est d'ailleurs la région la plus importante du pays. Et le succès que la candidature Ligue PDL a obtenu démontre que la Ligue peut encore exercer un rôle, une fonction importante dans la partie septentrionale du pays. Mais je crois qu'elle est en perte d'identité, c'est-à-dire ce n'est plus le mouvement qu'on avait connu pendant 20 ans. C'est un mouvement qui se voudrait plutôt autonomiste, mais sans aucune connotation idéologique, qui mise uniquement sur le thème le Nord avant toute autre chose, il faut garder nos impôts, etc., etc. Donc pour l'instant, je crois que la Ligue se trouve devant un choix assez difficile, c'est-à-dire ou bien se limiter à une gestion administrative des trois régions les plus importantes du Nord, ou sinon essayer de se relancer avec un projet plus important. En ce qui concerne la question peut-être plus importante qui a été posée, si ces phénomènes populistes ne sont que des phénomènes éphémères qui empêchent la droite de rester ou de revenir au pouvoir. Je ne pense pas que ce soit le cas cette fois-ci, parce que si l'on considère les sondages qu'il y avait jusqu'à 15 jours avant les élections, et plusieurs enquêtes qui avaient été menées par des journalistes, par des politologues, etc. S'il n'y avait pas eu la candidature de Grillo, le Parti démocratique aurait gagné sans doute ces élections. Parce que la plupart des électeurs, peut-être pas la plupart, mais presque la moitié des électeurs de 2008 du centre-droit, qui avaient obtenu à l'époque 40% de voix, avait été vraiment complètement déconcerté par les attitudes de M. Berlusconi, privé aussi bien que public. Et donc, cette fois-ci, il n'avait aucune envie de voter pour le PDL. Et là, donc, je crois que en réalité, Grillo a empêché le centre-gauche de gagner ces élections. On vient de paraître parmi les nombreux livres qui ont été consacrés ces dernières semaines au phénomène Grillo, vient de paraître un livre très sérieux qui s'appelle Il Partito di Grillo, écrit par deux de mes collègues, deux politologues de l'Université de Bologne. Et là, on trouve des chiffres intéressants. On a fait des études sur l'électorat de Grillo lors des élections locales, régionales, etc., de ces deux dernières années. Et c'est important et intéressant ce qu'ils ont écrit. C'est-à-dire que 48% plus ou moins des électeurs de Grillon, bon, ceux qui ont été interrogés par les chercheurs, disent ne se reconnaître absolument plus dans les catégories de droite ou de gauche. Parmi les 52 qui restent, il y en a deux tiers qui se disent toujours de gauche et un tiers qui se dit de droite. Mmh. Donc effectivement, il y a une sorte de possibilité de ce mouvement de gagner de voix aussi bien à droite qu'à gauche, mais probablement le rapport, c'est plutôt, parmi les gens qui continuent à se reconnaître dans ces deux catégories, c'est 2-1. Donc, si l'électorat de Grillo devait renoncer à voter pour le mouvement Cinque Stelle, je pense que la gauche en serait largement avantagée.
D'accord. Alors, Marco Tarti, nous sommes toujours sur Radio Courtoisie. Il nous reste quelques minutes. J'aurais presque envie de terminer par l'avenir de l'Italie et cette fameuse phrase du Guépard de Lampedusa. Si nous voulons que tout reste comme avant, il faut que tout change. Est-ce qu'on ne va pas se retrouver dans cette situation, ou est-ce que vous avez l'impression que cette fois-ci l'Italie va réellement changer et qu'elle risque peut-être de contaminer, je veux dire, le reste de l'Europe?
Je pense que la deuxième hypothèse est plus proche de la réalité, parce que la réaction du public, du peuple, de l'électorat, a été cette fois plus forte que jamais. C'est la classe politicienne professionnelle qui a été entièrement disqualifiée aux yeux des Italiens, et le résultat des élections le montre largement. Donc, c'est, oui, peut-être l'heure des outsiders, c'est le moment de ce phénomène populiste. Ce n'est pas impossible qu'il s'agisse de phénomènes de courte durée, mais je ne pense pas qu'il y aura une restauration de la politique qu'on connaissait avant. Par exemple, beaucoup de commentateurs pensent, je le pense moi aussi, que les partis seront obligés d'opérer quelques réformes importantes. Par exemple, on a maintenant 630 députés et 315 sénateurs, donc il y a presque un millier d'élus. On pense qu'on ira les réduire de 50%. Ce qui serait déjà quelque chose d'important en ce qui concerne l'efficacité de l'action politique, la possibilité d'avoir des décisions plus rapides, etc. On parle de l'élimination, ça peut probablement, on ne l'obtiendra pas, mais d'une diminution très très forte du financement public des partis. Et ça encore, ce serait une nouveauté. On demande, c'est surtout Grillo qui le fait, mais beaucoup de gens sont d'accord, que l'élimination complète de l'important financement de l'État aux quotidiens et aux magazines qui sont plus ou moins rattachés aux partis et qui ont donc des influences politiques directes, cela peut-être se fera. Donc, je crois qu'il y aura, on parle beaucoup du problème de l'introduction de référendum propositif, etc. Je pense que ce sera difficile de revenir en arrière cette fois-ci. Je ne prévois pas pour l'instant une révolution, bien sûr, mais des réformes assez radicales. Et je ne pense pas que l'électorat, cette fois, sera prêt à renoncer à cette sorte de revendication d'une radicale nouveauté, et donc qu'il n'y aura pas un reflux vers le parti traditionnel d'ici un an, deux ans, trois ans.
Merci à vous, Marco Tarchi, pour votre intervention et votre éclairage. Au moins, on sera beaucoup plus intelligent sur l'Italie à partir de ce soir.
Merci à vous.
Et si vous voulez être encore plus intelligent,
Eric, allez-y, deux secondes.
Si vous voulez être encore plus intelligent, retrouvez Marco Tarchi dans le numéro de Crisis consacré au populisme. Il y a une analyse de Marco Tarchi sur le phénomène populiste en Europe. Voilà.
Au revoir et bonne soirée à vous.
Merci.
Au revoir,
merci.
Au revoir.
Alors, on va juste faire une petite pause musicale. On va reparler pendant deux petites minutes, Philippe, de l'Italie, hein, et de Rome. Vous allez même m'accompagner pour parler de ça et suivre ensuite l'actualité européenne. Et surtout, ne quittez pas Radio Courtoisie. Cette deuxième partie des chroniques de la vieille Europe, toujours sur Radio Courtoisie. Alors avant de vous passer la parole, on va rester un peu en Italie, mon cher Philippe, parce que le 31 mai jusqu'au 1er juin prochain, à Rome, aura lieu la prochaine édition de la... Alors là, c'est terrible, c'est Tana del Tigri, fête annuelle du mouvement italien Casa Pans, que je pense les auditeurs ont dû entendre pendant quelques émissions sur Radio Courtoisie, parce qu'ils sont venus présenter l'un de leurs livres. Alors cette fête qui permet sur deux jours de, comme on dit, de relâcher la pression après une année de militantisme chez les militants de Casa Pons, et offre à ses participants des activités variées, prisées par la jeunesse d'aujourd'hui. Combat de boxe, théâtre, concerts seront au programme. Et l'année dernière, le groupe, alors pour certains, ça doit leur parler, le groupe identitaire français In Memoriam, c'est toute notre jeunesse, Philippe, s'est reformé pour l'occasion et avait joué devant plus de 1500 personnes. Et il y avait plus de 200 Français qui avaient fait le déplacement et l'ambiance, il paraît, avait été exceptionnelle. Alors, cette année encore, In Memoriam revient et à nouveau est invité à ce festival qui regroupe effectivement plusieurs groupes italiens et européens. Et donc on vous encourage à assister à leur unique prestation à Rome. Enfin, il n'y aura pas de concert à Paris, il n'y en aura pas à New York, enfin, de toute façon ce n'était pas prévu, ni à Berlin. Ils seront à Rome lors de cette fête spectaculaire qui se déroule à Area 19, ancienne gare occupée, c'est une ancienne gare qui est occupée par Casa Pons, à deux pas du stade olympique. Ça doit vous parler, mon cher Philippe, parce que je crois que vous y avez été l'année dernière.
Et oui, parce que figurez-vous que l'année dernière, j'y étais, parce que dans les hauts lieux de la culture européenne, je ne vais pas dire underground, d'abord parce qu'on est sur Radio Courtoisie, et ensuite parce que c'est quand même pas totalement mon truc, l'underground, il faut quand même reconnaître.
Non,
je crois qu'il y a deux choses dans cette annonce. La première, c'est qu'il y a quand même une véritable originalité dans ce mouvement. Le mouvement Casa Pound. Le mouvement Casa Pound est un mouvement qui... c'est vraiment un mouvement au sens où c'est pas une association, c'est pas un parti. C'est un mouvement qui mêle à la fois considération sociale, considération politique et considération esthétique. Et c'est un mélange tout à fait italien. Et donc la Casa Pound, c'est une sorte de maison commune qui se trouve au centre de Rome, pas très loin de la gare de Termini. Et donc chaque année, Casa Pound fait une fête, sa fête annuelle. Donc elle se fait à la Tana delle Tigri, c'est la tanière du tigre.
Ouais.
On voit que j'y suis allé. Hein.
Donc,
alors écoutez,
il va faire référence à Julie Cévola.
C'est assez extraordinaire parce que d'abord c'est à la fois très jeune et très famille. C'est à la fois viril et correct. Et puis le clou du spectacle, c'est toute une série de concerts. Et alors le deuxième événement marquant, c'est la reformation du groupe identitaire français In Memoriam.
Ah bah oui.
Donc In Memoriam, on s'en souvient, je ne veux pas faire injure aux autres, mais je crois que de loin, c'était le groupe de rock identitaire français le plus abouti, tant dans les mélodies que dans les textes. Je pense que un certain nombre de nos auditeurs se souviennent de Comité du 9 mai ou surtout du très célèbre Paris-Belgrade, puisque les rockers d'In Memoriam étaient allés
travailler sur les ponts de Belgrade
avait été joué
directement là-bas en soutien à la jeunesse serbe qui défendait ces ponts bombardés par l'OTAN. Et donc, à la surprise générale, l'année dernière, In Memoriam s'est reformé. Alors, tout va bien, ils sont tous là, c'est les mêmes, ils n'ont pas beaucoup changé. On aurait pu penser qu'ils allaient perdre un peu de cheveux ou prendre un peu de ventre. Alors, ils n'avaient déjà pas beaucoup de cheveux à l'époque, hein, mais ils n'en ont pas perdu.
Ils ont des enfants maintenant, et surtout,
la prestation a été assez électrique. L'avantage, c'est comme In Memoriam est connu et que c'est toujours des prestations scéniques de qualité, c'est qu'il y avait beaucoup de Français qui étaient là. Donc effectivement, j'étais venu en famille même, donc on peut même emmener ses enfants. Et c'était vraiment tout à fait extraordinaire. C'était bon enfant, c'était bien organisé. Et puis pour nous, c'était un petit frisson de retrouver In Memoriam. Donc voilà, donc les dates, c'est le 31 mai et le 1er juin prochain. Donc c'est sur un week-end. En plus, ce qui est pratique, c'est qu'In Memoriam joue le 1er juin. Donc ceux qui peuvent pas prendre leur vendredi parce que le patron donne pas la journée, eh ben ils peuvent quand même arriver le samedi pour participer au concert d'In Memoriam. Et très honnêtement, c'est ce que j'ai fait l'année dernière. Il y a tout un certain nombre de lignes low cost qui rendent le voyage tout à fait abordable. Et puis c'est à côté donc du stade olympique. Le stade olympique n'est pas l'endroit de Rome où il reste le moins de souvenirs de la glorieuse architecture des années 30. Donc vraiment, c'est un véritable voyage politique, esthétique, musical et architectural que je conseille à nos auditeurs de tous âges.
Voilà, c'est fait.
Pour finir sur l'Italie et avoir en tête la discussion qu'on a eue avec notre invité, je voulais juste éclairer nos auditeurs français, parce que ça, c'est quelque chose dont on se rend pas bien compte, de la vitalité de la vie démocratique en Italie. Figurez-vous, Patrick, que lors de ces élections à la Chambre des députés et au Sénat, mais en tout cas à la Chambre des députés, il n'y avait pas moins de 47 partis représentés. Donc, qui ont déposé des listes et des voix. Alors, il y a une partie de ceux, et 10 d'entre eux ont eu des sièges, hein. Donc, 47 partis, c'est énorme. Bien évidemment, c'est lié quand même à la structure, provinciale, hein, les provinces italiennes. Donc, vous avez une partie des minorités linguistiques, qui sont représentées. Vous avez le Haut-Adige qui s'exprime en allemand. Vous avez, deux partis sardes. Vous avez trois partis qui prônent l'indépendance de la Vénétie. Bon, ils font moins de 0,20 à 3, hein, mais vous avez un parti indépendantiste sarde, enfin vous avez le parti pirate, vous avez effectivement les trois partis d'extrême droite que nous avons cités, vous avez tout un tas de partis d'extrême gauche. Alors celui que je préfère, je sais pas qui y a derrière, mais j'ai envie d'adhérer, c'est le MIR. Le MIR, c'est Moderati in Rivoluzione. Donc c'est les modérés dans la révolution, et moi ça me motive. J'ai envie de faire partie des modérés. Voilà. Je sais pas s'il faut être révolutionnaire dans la modération ou modéré dans la révolution. Voilà, c'était pour finir.
Un peu comme nazisme et dialogue.
Oui,
c'est le genre de parti où on a envie de savoir ce qu'il y a derrière. Quoi.
Exactement. Ça, je vois que vous avez connu le groupe Jalon.
On part où, mon cher?
Écoutez, dans les quelques minutes qui nous restent, je voulais commenter pour vous et pour nos auditeurs le voyage de François Hollande à Moscou.
Ah oui.
En fait, je ne vais pas énormément commenter le voyage parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Mais en fait, ce voyage a coïncidé et coïncide, je pense, à un moment d'intense réflexion dans les choix économiques, notamment de développement, de modèles économiques de développement que la Russie fait entre Europe et Asie. Et je vais essayer de donner quelques éléments de perspective à nos auditeurs que je sais friands de ces sujets-là. Trois mots quand même sur le voyage de François Hollande. Ce qu'on a pu constater, en tout cas à notre satisfaction, c'est que François Hollande n'est pas tombé dans le piège de la déclaration sur les droits de l'homme, le recul de la démocratie et tutti quanti, ce qui démontre bien que quand un chef d'État veut le faire, il peut le faire. Il est vrai notamment que François Hollande avait quand même mal commencé, vous vous rappelez, au moment de sa prise de fonction, sa première rencontre à Paris avec avec Vladimir Poutine, et donc il était normal qu'il se réconcilia avec lui à l'occasion de cette visite. Le deuxième sujet.
C'était pas encore très chaud, hein. Mais...
Non, c'était pas encore très chaud, mais c'était plus lié au fait qu'il y a un vrai contentieux sur la, un contentieux d'approche sur la Syrie, mais il y a à l'évidence des tentatives qui ont été faites pour éviter que ça ne se passe pas bien. Et il y a des raisons à cela, j'y reviendrai. Par ailleurs, vous savez que le ministère des Affaires étrangères français a quand même élaboré un nouveau concept de politique étrangère intitulé la diplomatie économique, et que, à l'évidence, on voit très bien que dans la situation actuelle de la France, nous avons à la fois besoin de débouchés commerciaux, nous avons à la fois besoin d'attirer des investissements. Je ne sais pas s'il y a en Russie des monsieur Taylor, comme il y en a aux États-Unis. Mais ce qui est intéressant, c'est que, mine de rien, les échanges commerciaux entre les deux pays se portent bien. Pour donner quelques chiffres, hein, 17 milliards d'échanges en 2009, 28 milliards d'échanges en 2011. Donc la France a gagné une place. Elle s'est placée troisième maintenant en Russie dans les investissements directs. En revanche, les investissements russes en France, hein, j'ai cité, hein, 28 milliards de dollars d'investissements français en Russie, 188 millions de dollars d'investissements russes en France. C'est bien évidemment là où il y a un afflux de capital que Paris souhaite stimuler. Alors, un chiffre intéressant, je ne sais pas ce qu'il vaut, mais il paraît que d'après les sondages, 13% des Français considèrent la Russie comme un pays ami, 13% comme un pays ennemi, et les autres ne savent pas. Ce chiffre m'a presque fait plaisir, parce que quand on voit le déluge d'âneries déversé par la presse française, enfin, il se confirme une fois de plus que...
C'est vrai que le Monde avait fait un sacré effort quand même pour...
Ah oui, puis alors le Monde, ça va pas s'arranger, puisque vous avez vu que la nouvelle directrice du Monde, Madame Guérène, est une ancienne correspondante à Moscou. Elle a une meilleure plume que Marie Jégot qui y est actuellement, mais enfin, ça va pas changer beaucoup la ligne éditoriale du Monde. Donc, ce qui est intéressant quand même sur le c'est que je voudrais prendre un peu d'histoire et essayer de montrer à nos auditeurs le dilemme, ou en tout cas le débat qui existe en Russie sur je continue à regarder à l'ouest ou je regarde vers l'est. Et du coup, quelles sont les conséquences potentielles, risques ou opportunités pour nous, Français ou en tout cas Européens? On le sait, depuis quasiment la chute du système communiste, c'est-à-dire quasiment depuis 91, la toute jeune Fédération de Russie a systématiquement cherché à se rapprocher de l'Occident devenu l'Europe. La politique russe, elle est restée inchangée et stable, principalement du fait que les hommes qui la conduisaient sont restés eux-mêmes au pouvoir. Elle a donné lieu à des actes tout à fait importants et symboliques, hein. L'adhésion au Conseil de l'Europe en 96, l'adhésion au G8 en 97, la volonté de la Russie de rejoindre la famille dite occidentale dans la lutte contre le terrorisme en 2001, vous vous en souvenez, avec cette offre de service faite de manière très surprenante à l'époque à l'armée américaine, la création du Conseil Russie-OTAN en 2002, la proposition d'une architecture européenne de sécurité en 2008. Donc on le sait, il y a une volonté. Cette volonté, elle est bien évidemment traduite par un certain nombre de liens économiques. Je ne vais pas revenir sur l'interconnexion des économies, notamment sur le facteur énergétique, mais au-delà des échanges purement commerciaux sur l'énergie, cette interdépendance, elle est maintenant matérialisée par les deux projets phares, les deux gazoducs que sont le Nord Stream, qui est en fonctionnement, et le South Stream, qui a eu la peau du projet Nabucco et qui est en cours de construction. En revanche, ce qu'on constate, c'est que ce qu'on semble constater, c'est que les fondamentaux économiques sont posés et a priori on n'avancera pas plus loin. C'est-à-dire qu'on n'avancera pas plus loin sur des fondamentaux plus politique, tout simplement parce que, à l'évidence, il n'y aura pas de modèle commun entre l'Europe de l'Ouest et la Russie. Il y a véritablement une pierre d'achoppement sur, on va dire, le modèle de société ou la morale politique globale. L'Union européenne continue à vouloir imposer à la Russie une conception sociétale qui est très libérale-libertaire, que nous connaissons bien, dont nous dénonçons les travers sur un certain nombre de points, et ceci consiste en une, consisterait en une véritable rupture dans une Russie plutôt conservatrice et qui connaît un retour du fait religieux. Et du coup, la question de la Russie est désormais, bien évidemment, de se tourner vers l'Asie. Et en janvier, fin janvier dernier, s'est tenu en Russie un forum qui s'appelle le forum Gaïdar, qui vient du nom de Igor Gaïdar, qui avait fait partie des ministres de l'économie à l'époque de Yeltsin. Donc c'est un forum chaque année, une espèce de Davos, si vous voulez, plus localisé, et surtout russo-russe principalement. Et ce forum, il est l'occasion de discuter en gros de l'avenir économique de la Russie, et puis d'envisager des scénarios de développement pour le pays. Et principalement, la thématique de cette année, c'était les questions d'intégration économique et le choix des partenaires commerciaux de la Russie. Donc on a eu le débat assez classique entre les intellectuels libéraux qui vont jusqu'à l'intégration à l'Union européenne. On a eu les intellectuels de la gauche russe qui pensent au contraire que l'Europe n'a pas besoin de l'intégration et qu'il faut qu'elle se tourne vers l'Est. Ce qui est plus intéressant, c'est que l'ensemble des participants au forum ont poussé une idée qu'ils ont appelé le concept d'éclatement de l'Occident. Qu'est-ce qu'on entend par éclatement de l'Occident? Ce qui est assez intéressant, cet éclatement, il se matérialise suivant trois tendances lourdes. Premièrement, c'est une transformation de l'Amérique qui passe de puissance transatlantique en une puissance transpacifique attirée par l'Asie. Le deuxième élément, c'est l'isolement de l'occidental Australie, de plus en plus isolé au sein d'un Pacifique de plus en plus asiatique, voire chinois. Et troisièmement, c'est surtout l'incapacité avérée de l'Europe à faire face à la globalisation et en fait le risque fort que l'Europe occidentale sorte de l'histoire par une porte dérobée. Et d'ailleurs, bien évidemment, les résultats électoraux ou les anticipations de résultats électoraux italiens, mais également les déclarations du gouvernement Cameron en Angleterre sur une hypothétique sortie de l'Angleterre, non pas de la zone euro puisqu'elle n'y est pas, mais de l'Union européenne, ont été cités. Si on a 5 minutes, on reviendra sur les nouvelles d'hier sur la surenchère britannique concernant le retrait de Londres de la Cour européenne des droits de l'homme.
Ils me font rire, ces Anglais, vous ne pouvez pas savoir.
Je vous laisse. Mais donc, une minute pour développer ça. L'idée, c'est de dire, on va donc vers un monde qui, en gros, se désoccidentalise et s'asiatise. Et pour la Russie, le choix est intéressant au sens où la Russie a donc fait tout ce qu'il fallait pour quasiment maximiser son intégration économique sur l'Europe de l'Ouest, sur la façade Ouest, avec de plus en plus le constat d'un certain nombre de barrières qui empêchent d'aller plus loin, non pas en intégration politique, mais en tout cas en alliance ou en complicité politique. Et à l'inverse, bien évidemment, la porte qui s'ouvre sur cette Asie. Je rappelle que deux éléments. Premièrement, c'est que dans son discours annuel de décembre dernier, Vladimir Poutine a quand même affirmé que l'Asie constituerait désormais la priorité de développement de la Russie pour les prochaines 25 années. Et deuxièmement, sur le plan des hydrocarbures, les chiffres là aussi sont très clairs. La Russie projette de réaliser en Asie-Pacifique, en gros, 22 à 25% de ses exportations de pétrole et 20% de ses exportations de gaz d'ici à 2020. La part réalisée avec l'Europe est de 30%. Donc on assiste donc à un rééquilibrage. Sur la scène politique russe, ce rééquilibrage s'opère par le changement des hommes. C'est-à-dire qu'on voit bien que le libéral modernisateur Dmitri Medvedev aujourd'hui s'efface devant d'autres figures. On peut parler de Dmitri Rogozin, qui est désormais le nouveau patron du complexe militaro-industriel russe, qui est très proche du parti dit de centre-gauche, parce que c'est un peu compliqué, c'est pas exactement les mêmes critères que nous, mais Rodina, hein, la patrie. Et donc Rogozin, qui est l'ancien monsieur Russie à l'OTAN, qui fait partie maintenant maintenant du premier cercle du pouvoir. Il a d'ailleurs dernièrement un de ses hommes-liges qui fait partie des conseillers économiques de Vladimir Poutine qui a fait tout un topo sur ce qu'il appelle la guerre financière totale que mènent les pays industrialisés et occidentaux contre la Russie aujourd'hui. Hein, l'idée est assez simple, l'idée est de dire que les États-Unis, le Japon, la Grande-Bretagne, les pays de l'Union européenne notamment, font marcher la planche à billets pour acheter des actifs russes et qu'il convient donc de limiter ces opérations et de limiter les opérations en monnaie étrangère. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, on a une véritable interrogation, me semble-t-il, perceptible tant dans le débat intellectuel que sur la scène politique russe, sur est-ce que nous sommes allés au bout de cette tentative de rapprochement vers l'Ouest, ou faut-il continuer avec ce tropisme qui est désormais le tropisme asiatique. Et ce qui est intéressant, et voilà pourquoi je relis ça au voyage de François Hollande, c'est que aujourd'hui, l'Europe occidentale et la France en tout premier chef vont peut-être beaucoup plus avoir besoin de la Russie, un peu dans le même rapport de force qui était celui des années 90-2000, où la Russie avait besoin de l'Europe occidentale, à la fois pour s'arrimer à une zone économique stable, pour trouver les créanciers et pour financer son propre redressement. Je ne dis pas que François Hollande a été aimable il y a 15 jours parce qu'il sent que le centre de gravité russe glisse vers l'Est et que ce n'est pas le moment puisqu'on a besoin de cela, mais il est clair que les Russes vont continuer à jouer cette carte de « nous sommes des débouchés pour vous ». Nous avons maintenant autant besoin de vos capitaux pour nous moderniser, notamment sur l'industrie manufacturière, que vous avez besoin de la profondeur de notre espace commercial pour écouler vos produits. Et puis surtout, nous sommes le pont naturel entre vous et l'Asie, à la fois pour des raisons là aussi de débouchés économiques, mais également en termes de connexion, y compris au monde musulman. Je rappelle que la Russie est un exemple de capacité à gérer la complexité du monde musulman sur la globalité de son territoire. Et donc, je pense que nous sommes, je veux pas dire qu'on est à la veille d'un bouleversement majeur parce que ce serait excessif, mais je voudrais que nos auditeurs aient en tête que je pense, et c'est d'ailleurs le discours de Vladimir Poutine du mois de décembre, mais peut-être que les auditeurs de Radio Courtoisie n'ont peut-être pas tous appris par cœur, et donc ceux qui ne l'ont pas fait seront punis. Je pense que nous sommes à la veille d'un changement stratégique, d'un changement de pied qui risque, me semble-t-il, de faire peser une menace supplémentaire sur l'Europe, au sens où, si l'Europe de l'Ouest ne saisit pas le partenariat et la complicité, c'est probablement sa dernière chance de ne pas disparaître de l'histoire dans les 50 ans qui viennent, qui s'évanouirait, et ce à quoi, bien évidemment, nous ne pouvons nous résoudre.
Surtout que là-dessus, j'ai l'impression que ça soit l'Allemagne ou la France, ils y vont en solo et que l'Europe n'est pas vraiment présente. Et chaque pays y va
de son côté. Mais hein. pour des raisons assez évidentes, c'est-à-dire que l'Union européenne a, surtout en termes de politique extérieure, l'Union européenne, elle n'a quoi ? Elle a un magistère moral et la morale libérale et libertaire que j'ai indiquée. Et pour le reste, l'Union européenne, vue de Russie, c'est la politique de voisinage, c'est-à-dire essayer d'arrimer par tous les moyens à l'Union européenne ou à l'OTAN des anciens pays satellites, voire des régions historiques de la Russie comme l'Ukraine. Dernier sujet, parce que ça va avec, et on parlait de l'image désastreuse de la Russie dans les médias français. On a tous été bercés par les projections totalement catastrophiques sur la dénatalité russe. C'est-à-dire que voilà, les Russes, ça va être terrible, ils vont être plus que 130 millions d'habitants en 2015, etc., etc. Je voulais vous donner quand même quelques nouvelles de 2012. Pour la première fois, la Russie frôle en 2012 l'équilibre naissance-décès. elle frôle. Alors il se trouve qu'il y a eu un, il y a eu un grand froid historique en décembre 2012 qui a un peu aggravé les décès, mais grosso modo, on est à 1 900 000 naissances, 1 900 000 décès. Il y a un solde de 2573 habitants. Donc ça y est, la Russie continue sa progression avec réduction des décès. Réduction de la mortalité, la courbe, la tendance de la courbe reste bonne. Accroissement du nombre de naissances, la tendance de la courbe reste bonne. Donc, je crois qu'on peut dire aujourd'hui, devant les yeux et les oreilles du monde qui n'attendait que ça, que les scénarios catastrophiques des 130 millions d'habitants, c'est terminé, c'est pipeau. Autre bonne nouvelle et chiffre qui fera plaisir à un certain nombre de nos auditeurs, le nombre d'avortements est en forte baisse. Ils étaient d'1 800 000 en 2004, ils ont été moins de 850 000 cette année. C'est encore toujours trop, mais ça prouve qu'il y a une vitalité démographique et que donc il n'y a pas de fatalité non plus lorsqu'un gouvernement prend des mesures pour qu'elles soient non pas appliquées, mais qu'elles portent leurs effets.
Ensuite.
Peut-être si vous voulez qu'on passe une minute sur ce que les journaux appellent la surenchère anti-européenne de Londres. Savez qu'il y a un vieux sujet qui n'est pas neuf, c'est le principe des vieux sujets d'ailleurs, qui est que le Royaume-Uni ne supporte pas la tutelle de la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg, notamment sur un point particulièrement énervant, mais les Anglais, eux, résistent toujours là où nous, on a baissé pantalon depuis un certain temps, c'est le droit de vote des prisonniers. En Angleterre, quand vous êtes prisonnier, vous n'avez pas le droit de vote. Mais la Cour européenne des droits de l'homme, qui, comme chacun sait, s'occupe des droits de l'homme, considère que c'est vraiment pas bien, et donc dit au Royaume-Uni, ben nous, les gars, on est désolés, mais il faut que les prisonniers, qui sont quand même des petits gars vachement bien, il faut qu'ils votent. Et les Anglais disent, ben non. Et la Cour européenne dit, ben si. Les Anglais disent, ben non. Et donc, il y a ça, il y a eu, je ne vais pas revenir, mais toute une série de mesures d'extraction.
En France, ils ont le droit de voter, les prisonniers.
Oui, bien sûr.
Ah bon,
oui.
Ah bah écoutez,
vous inquiétez pas.
Il y avait un autre pays, l'Italie qui essayait de résister, qui a eu une solution médiane, puisqu'elle a transigé sur les peines, c'est-à-dire non, qu'elle fait voter.
En France, les prisonniers ne votent pas, mais c'est parce qu'ils ne sont pas français. C'est pas parce qu'ils n'ont pas le droit de vote.
Ça doit être ça. Ça doit être ça.
C'était drôle, ça, non ?
Oui, c'était pas mal. Bon. Enfin, moi, ça m'a fait rire sur le moment. Les
auditeurs peuvent pas me voir. Mais... S'il y a des auditeurs que j'ai choqués, je m'excuse. Bon, allez. Accessoirement, voilà, donc
les Anglais.
Les Anglais, en fait, font la surenchère. Et vous avez deux ministres de Cameron qui viennent d'annoncer que si en 2015 le gouvernement conservateur était reconduit et avec cette fois-ci une majorité plus nette, puisqu'aujourd'hui il est en collaboration avec les fameux Lib Dems, eh bien, il sortirait le Royaume-Uni de la tutelle de cette Cour européenne. Il sortirait donc de ce traité-là. Il rejoindrait ainsi, la Biélorussie, seule autre pays européen qui a refusé d'adhérer, et il a raison, à la Convention européenne des droits de l'homme. Donc, bien évidemment, cet électoraliste, pourquoi ils l'ont fait ? Parce que figurez-vous que dimanche dernier, ils viennent de se prendre, tant les conservateurs que les Lib Dems, une raclée dans une circonscription du sud de l'Angleterre, à Eastleigh. C'est une élection législative locale, et figurez-vous que là, le candidat arrivé en tête est largement du camp de droite, avec 28% des voix, est la candidate de l'UKIP. L'UKIP, c'est le United Kingdom Independence Party. Vous avez également en tête qu'on s'approche très vite des élections européennes et donc la politique reprenant tous ses droits, il y a la volonté là aussi d'envoyer, comme disent les journalistes qui savent tout, un signal fort à l'électorat. Donc là, il y a un signal fort à l'électorat, mais enfin quand même, c'est pas inintéressant. C'est un coup de plus sur la dislocation de ce que nous n'aimons pas dans la construction européenne.
Ce sera intéressant d'ailleurs de voir les résultats de cette élection européenne qui pourrait envoyer une majorité de députés eurosceptiques.
Ça ne sert à rien, mais ça sera marrant.
C'est toujours amusant parce qu'ils sont incapables de se mettre ensemble. Autre chose.
Oui, je voulais vous donner des nouvelles d'une fameuse national masochisme qui, comme chacun sait, sert de politique extérieure à l'Allemagne depuis 1945. Et donc, truc assez extraordinaire. primaire qui sont les séries d'humiliations dont sont victimes les soldats allemands de la Bundeswehr en Turquie.
On a tous lu ça aujourd'hui.
Vous le savez, chers auditeurs, dans le dispositif de pression contre la Syrie réside le fait qu'on a déployé des batteries de missiles Patriot, parce qu'on imagine bien hein, le Bachar el-Assad de décider de balancer des scuds sur Trébizonde ou Knokke-le-Zout. Et donc, résultat, on a des batteries de missiles Patriot à la frontière syrienne côté turc. Donc on a donné, il y a trois garnisons, il y a une garnison américaine, il y a une garnison néerlandaise, puis une garnison allemande. Et alors, figurez-vous que les Allemands, ça se passe pas très très bien, puisque même le rapport du médiateur parlementaire allemand auprès des armées, qui s'appelle Monsieur Königshaus, qui est un type, qui est un député chargé d'assurer le respect des droits des soldats, donc autant vous dire que le respect des droits du soldat allemand en Turquie, ça s'est quand même beaucoup perdu depuis les Dardanelles. Et donc, il constate que les forces allemandes sont loin d'être les bienvenues en Turquie. Alors, il y a eu cette affaire où cinq soldats qui allaient paisiblement au marché se sont fait agresser par une horde de manifestants, mais surtout il y a eu cette affaire du logement du casernement. Alors le logement du casernement, alors je cite le journal, c'est à la fois un mélange de clichés et de trucs totalement délirants. Le début c'est le cliché, c'est très drôle. Habitué à une propreté irréprochable, c'est quand même des Allemands, y compris lors d'opérations dans des conditions difficiles comme en Afghanistan, les troupes allemandes ont été horrifiées en découvrant l'état de la caserne que leur a réservée l'armée turque, célèbre par les édicules du même nom. Des excréments leur arrivaient jusqu'aux genoux dans les installations sanitaires, selon le rapport. Il a donc fallu visiblement s'y mettre à plusieurs, et l'état déplorable des dortoirs a contraint les quelques 280 soldats de se loger dans des hôtels. Bon, jusque-là, qu'il y a un problème de plomberie qui envoie la Bundeswehr à l'hôtel, on pourrait presque dire que c'est une récompense. Mais ça n'a pas suffi, parce que lorsque le ministre allemand de la Défense est venu pour visiter ses pioupiou, ces braves Lanzer, les soldats turcs ont contraint la Bundeswehr à retirer tous les drapeaux allemands et toutes les pancartes portant des noms allemands de la caserne, sous prétexte que la caserne était une part du territoire turc. Et pire que ça, pendant la visite du ministre, s'est pointé un brave général turc dans sa voiture, sauf que le général, il est passé pas au bon moment par rapport au cortège du ministre allemand, et qu'il y avait un brave troufion qui en fait était une brave troufionne, une sorte de Feldgendarme allemande de sexe féminin, et qui a dit ah ben non on passe pas. Et donc cette brave fille finalement s'est fait tabasser, parce que j'imagine qu'effectivement de voir une jeune teutonne de sexe féminin, donc probablement avec des nattes blondes, bloquer la voiture d'un général turc avec des moustaches, j'imagine que ça c'était une offense absolue. Donc elle a été tabassée, parce que c'est comme ça qu'on fait, au nom du respect de la femme. Et donc, alors les Allemands sont très embêtés, parce que ils trouvent que c'est pas... Ils reconnaissent donc une situation difficile, ils trouvent que c'est pas bien. Donc en tout cas, ils vont tout faire pour que ça ne fasse pas trop de bruit. Le national-masochisme est en marche. Alors heureusement, sur le sujet...
Il
y a quand même des choses qui bougent. Figurez-vous que le 21 février dernier, et ça c'est important, le Premier ministre tchèque est allé s'exprimer devant le Parlement de Bavière, devant lequel il a présenté ses excuses pour l'expulsion des Allemands des Sudètes après 1945. Il n'est pas allé ouvrir de droit à réparation, parce qu'il ne faut quand même pas rigoler, à certains et
pas à d'autres. On a entendu le mot excuse.
Mais quand même, il s'est excusé pour l'expulsion des Allemands des Sudètes. Voilà peut-être le début de la reconnaissance du probablement plus long et plus cruel martyr de toute l'histoire du XXe siècle, qu'a été l'expulsion des territoires de l'Est des populations allemandes.
On termine et on se retrouve dans 4 semaines, et bonne soirée sur Radio Courtoisie pour la suite de vos programmes.